Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, c'est Amine, bienvenue dans un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Aujourd'hui, si je suis de retour à la présentation, ce n'est pas pour parler du All-Star Game, mais nous allons profiter du break pour aborder un sujet qui peut déchaîner les passions. Encore plus cette année, où il est plus qu'autorisé, il est recommandé d'être franchouillard sur le sujet. Vous l'aurez deviné, nous allons faire un point sur cette classe de rookie de cette année. Et avec moi aujourd'hui pour en parler, il y a Madiane. Madiane, comment tu vas ?
Eh ben, ça va fort bien, comme dit All-Star Weekend, donc on peut enregistrer le dimanche matin, il n'y a pas de problème.
Pour dire un petit peu ce qu'on s'est dit un petit peu en off, aucun de nous n'a regardé la soirée d'hier, donc voilà, on est assez frais normalement. Et pour un épisode rookie, évidemment, aujourd'hui, on a Constant. Constant, comment ça va ?
Ça va, oui, bah effectivement, même moi qui d'habitude regarde les concours, j'aime bien regarder les concours, j'ai pas regardé. C'est vous dire à quel point l'intérêt du All-Star Game est important. Et puis quand on voit que les joueurs, notamment Anthony Edwards, sont cités que lui dit « Oui, je vais jouer le All-Star Game main gauche », ça montre le niveau d'investissement des joueurs. Donc voilà, c'est pas le premier d'ailleurs, hein, petit trivia, c'est pas le premier à avoir joué main gauche. Alors il y a Larry Bird qui a fait le concours à 3 points, non. C'était Larry Bird, c'était en match NBA contre Portland avant de jouer les Lakers, il shootait main gauche.
Larry Bird n'a pas enlevé sa veste.
Voilà, Larry Bird n'a pas enlevé. Ouais, je confonds deux anecdotes. En même temps, Larry Bird, il en est tellement.
C'est Larry Bird.
C'est les Pistons de 2006 quand ils font 65 victoires sous Flip Saunders. Ils ont 4 All-Stars et il me semble que c'est Rachid Wallace qui s'amusait à tirer main gauche pendant le match. Voilà.
Ouais, il avait fait n'importe quoi. Il y a eu aussi un moment où les Pistons, c'était marrant quand ils étaient là, tous les quatre avaient décidé qu'ils joueraient de la défense à fond. C'était très fun. Un passage bien marrant à regarder.
Oui, donc un épisode où on commence tout de suite par parler beaucoup et parler mal du All-Star Game, ce qui ne va pas plaire à notre boss Ben, qui, quand il s'occupera de voir cet épisode. Dans cet épisode, donc, comme je l'ai dit, on va d'abord faire un point sur la course au rookie de l'année, avant d'évoquer les bonnes surprises, les cas particuliers et nos chouchous de la QV. On vous remercie comme d'habitude pour votre fidélité sur les plateformes de podcast, sur YouTube et sur les réseaux. On se retrouve juste après la petite pause protocolaire. Alors, j'ai envie d'aller tout de suite à l'essentiel, les gars, en vous demandant quel est un peu votre podium de cette cuvée de rookie, puisqu'il risque d'y avoir assez peu de suspense. Donc, on va commencer tout de suite par ça et on va évacuer certains sujets évidents.
On commence par le troisième.
Allez.
Pas de débat.
Il y en a plus trop.
En troisième, on a Miller. Hein. Oui, ouais. Non. Brandon ouais. Miller en troisième, qui nous fait un très bon mois de janvier, février. Il attaque bien 2024. Globalement, j'ai l'impression qu'il commence à se faire au jeu NBA, qu'il est un peu plus sérieux aussi défensivement. Je le trouvais bon sur l'homme en défense et maintenant je vois qu'il progresse dans ce compartiment, qu'il s'ajuste plus et c'est bien parce que défensivement aussi, il faut pas que ce soit un poids pour son équipe. Et puis offensivement, ouais, il a l'air d'avoir trouvé ses zones et sa façon de scorer. Donc très bonne surprise finalement de le voir aussi bien performer. Depuis le début d'année.
Oui, bah après, non, mais moi j'ai Miller en 3. On en parlera peut-être après un peu plus dans le détail de Brandon Miller. Mais quand on avait fait le 4-4, j'avais dit ne sous-estimez pas la bonne saison de Brandon Miller, je me rappelle. Quand on avait fait la FAQ de Noël, on avait parlé un peu de Rami Raquez et de Brandon Miller Non, c'était une des questions de la FAQ, il me semble. Ouais, c'était ça. Quentin Sports of the Year qui avait parlé de Brandon Miller. Et je me souviens, j'étais frustré parce que j'avais pas pu parler de Brandon Miller.
C'est moi qui en avais.
Mais non, ouais. Mais du coup, non, moi je l'ai en troisième. Ah, et puis après, bon, le top 2, il est évident, bien sûr. Tout le monde l'a dans le bon ordre en plus.
Ouais, ouais, tout à fait, hein, Constant.
Ouais, j'ai Chet Holmgren en 2, j'ai Victor Wembanyama. Ouais.
Ah, vous avez été un peu vite, je voulais juste revenir vite fait sur Miller aussi. Ouais, je suis d'accord avec vous, je suis surpris positivement depuis le début de la saison sur sa défense. C'était pas forcément l'aspect sur lequel on l'avait drafté. Donc, bon défenseur. Offensivement, tout de suite, ça rentre assez vite. Très bon shooter, on voit vraiment beaucoup de qualité à ce joueur. La seule question, c'est de savoir quel est le plafond. Y a beaucoup qui le comparent, par exemple, à Paul George. Mais si c'est Chris Middleton, si c'est Danny Granger, ça sera déjà très bien. Et parce que on va peut-être se poser un peu plus la question. On sous-estime peut-être le handle de Paul George. Et on n'est pas encore à ce niveau-là sur Brandon Miller.
Ah, non.
Et on n'est pas sûr d'atteindre ce niveau-là pour Brandon Miller. Donc, s'il atteint un niveau équivalent à un Chris Middleton, par exemple, ça serait déjà vraiment, vraiment bien. Et oui, pour la suite, je pense que du coup, si Constant a ce top 2-là, je pense qu'on est tous d'accord sur le top 2 avec Chet en 2 et Wembanyama en 1. Madiane.
Bah oui, disons que les courses se sont croisées. Déjà parce que effectivement, Victor joue de mieux en mieux et on abordera son cas plus spécifiquement. Et aussi, Chet, malheureusement, c'est ce qu'on se disait en off, c'est que l'un des mauvais aspects du fait qu'il a été très vite responsabilisé dans un collectif qui essaye de gagner beaucoup de matchs, qui a besoin de ses victoires. Donc du coup, forcément, tu as moins d'occasions de te reposer. Il y a pas de load management sur lui, comme il peut y en avoir chez d'autres. Et bah forcément, là, on a un vrai rookie wall, je trouve. On dit souvent, le rookie wall, il existe de moins en moins, etc. Si, il existe, si tu joues tous les matchs, il y a un moment, tu vas taper dans tes réserves. Et je pense que là, pour Chet, ce qui est logique, c'est première saison, retour de blessure, il n'a pas joué toute la saison dernière. Bah ouais, forcément, là, on a un vrai rookie wall. Mais c'est logique, vu le niveau de responsabilité qu'il a au Casey, c'est quand même lui qui en grande partie, fait en sorte que ce soit une excellente défense. Donc oui, c'est pour moi c'était logique qu'à un moment ça allait tousser. Donc des débuts excellents, c'est ça ne baisse pas sa valeur, mais forcément il y aura des moments un peu plus bas et on est en plein dedans et ça reste quand même très décent. Pour des moments bas, il y a beaucoup de joueurs qui rêveraient de bas aussi haut.
Constant, pour te relancer, je vais te poser une question un petit peu provocatrice. Je pense on sera d'accord sur la réponse en vérité, mais si Chet avait joué l'année dernière et du coup avait été dans sa classe de rookie, clairement.
Oui, il aurait été rookie de l'année, oui.
On est d'accord.
Oui,
Pourtant, Banchero fait une très belle saison l'année dernière, mais il serait quand même le rookie de l'année.
Oui, c'est parce que c'est... Déjà, Chet a les pourcentages, il a l'efficacité. Alors, je sais que ça peut déplaire à certains quand on parle du rookie de l'année, de parler de l'efficacité. C'était notamment l'un des points qui faisait que pour certains, Jane Williams aurait dû être rookie de l'année devant Paolo Banchero, qui était un point que je partageais pas. Mais c'est surtout ce qui fait la différence, ce qui aurait fait la différence l'an dernier entre Paolo Banchero et Chet Holmgren, c'est l'aspect défensif. C'est que vraiment... On a un moteur défensif, on a le point d'ancrage défensif de cette équipe d'OKC, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Paolo Banchero. Donc, effectivement, en attaque, t'as un joueur un peu plus frustre, un peu moins impliqué dans le collectif, même si, voilà, on est sur un joueur à 16 points en 55, 39, 77. Pour un rookie, c'est quand même très intéressant. Donc, après, c'est sûr que c'est difficile de pas le voir potentiellement comme le meilleur joueur de la QV de la draft 2022. On salue les fans du Magic, mais ça peut l'être. Peut-être que ce sera Jane Williams, peut-être que ce sera Jordan Envy. La draft est encore relativement, enfin même très fraîche, donc ça peut encore beaucoup évoluer. Mais effectivement, c'est difficile d'être... on va dire que tout le malheur, entre guillemets, de Chet Holmgren, c'est de s'être blessé et d'arriver en même temps, enfin de faire sa saison rookie en même temps qu'un joueur qui a quasiment le même profil, mais qui, contrairement à Chet, est un extraterrestre. Voilà.
Oui, et puis, comment dire, il y a une forme de destin croisé entre les deux. Ils s'étaient déjà affrontés lors des championnats du monde, si je me souviens bien. Et on avait vu ce qui s'était passé à l'époque avec une perf globale des États-Unis supérieure avec un très bon Chet, mais Victor qui avait marqué les esprits, je me rappelle.
Bah, c'était Kenneth Lofton, le MVP des États-Unis en finale, c'est Kenneth Lofton. Mais n'oubliez pas que Chet Holmgren avait été élu MVP de la compétition quand même. Hein, il me semble que c'est la Coupe du Monde U20. Mais oui, mais toujours est-il. Mais de toute façon, les deux... Un peu, de manière un peu facile parfois par les médias américains, mais les deux sont très liés de toute façon. Et je pense que même s'il y en aura un qui sera DH20 et l'autre qui sera peut-être jamais, les deux seront toujours très liés dans leur destin.
Oui, bah parlons justement de Victor. Hein, à un moment donné, il faut l'évoquer. Il y a quelques semaines, en off d'un enregistrement, je crois que t'étais là, Madiane. J'étais réfractaire à discuter de Wembanyama dans une éventuelle discussion des H20. Et puis j'ai revu mon jugement depuis et je me dis que quand même, je dis pas qu'il est des H20, mais dans la discussion, en vérité, c'est évident. Il serait dans une bonne équipe. Il serait clairement dans la discussion. Donc, Madiane, qu'est-ce que tu penses de cette saison de Victor?
Ben, c'est de mieux en mieux et ça fait plaisir à voir. Oui, globalement, la question qui se pose pour Wembanyama, c'est qu'est-ce que ça donnerait avec un collectif un peu cohérent et une équipe qui n'a pas construit l'effectif afin de perdre à tout prix. C'est impressionnant des deux côtés du terrain. Bon, en défense, c'était logique. Et offensivement, pareil, il s'adapte, c'est-à-dire qu'il tire moins de 3 points. Il sait utiliser du coup beaucoup plus ses skills pour trouver la faille. En transition, ben c'est aberrant. Et non, c'est très satisfaisant. Maintenant, dans tout ça, la question c'est comment est-ce que tu fais autour de lui, comment tu construis un effectif cohérent. Mais quand on regarde les statistiques, au vu de ses minutes, au vu de ce qu'il fait, c'est générationnel en termes de saison rookie. Il faut aussi le dire, c'est-à-dire que Chet n'est pas un. Parce qu'en fait aussi il tape l'une des rares années où il peut pas être un, mais en fait dans beaucoup d'années NBA, la saison de Chet aurait suffi, mais là ce qu'est en train de nous faire Victor Wembanyama est générationnel. Et quand on regarde, par exemple, c'est des petits indices, mais sa perf avec le triple double avec les comptes, je sais qu'on sent que voilà. Mais du coup, si on regarde cette performance-là et qu'on regarde les noms qui y sont associés, c'est n'importe quoi. On parle David Robinson. Ça date d'il y a très longtemps. Quand on regarde aussi du coup, par exemple, le nombre de contres qu'il a sur l'année, c'est au-dessus de saison de défenseur de l'année, de bonne saison de défenseur de l'année au poste de pivot. Ça me fait penser que pour moi, il suffira que la défense des Spurs soit juste bonne. Si la défense des Spurs passe top 5 NBA un jour et que Victor est là, il chopera, à mon avis, un titre de défenseur de l'année assez aisément. Donc voilà, ce que fait Victor, c'est générationnel. C'est ce qu'on attendait finalement de lui. Et franchement, tenir les attentes qu'il peut y avoir autour de soi, c'est quand même grand chapeau à lui.
Ouais, ce qui est frappant aussi, c'est que tu l'as dit un petit peu, il est dans un collectif où il n'est pas spécialement mis en valeur finalement. On pourrait optimiser encore plus, en tout cas, les talents de Wemby. Je vois que tu dodelines constant, mais par exemple, je dis juste ça comme un exemple, abuser des passes lobées, ça serait peut-être pas mal aussi pour Wembanyama, abuser encore plus parce que c'est presque inarrêtable finalement. Et du coup, je trouve que ce soit pour Wembanyama ou pour Chet, ce qui est assez fou, finalement, c'est qu'il y a encore de la marge de progression et ça se voit. C'est-à-dire qu'on n'est qu'au début du processus. C'est déjà des joueurs importants de la NBA alors qu'on n'est qu'au début finalement du processus. Constant, qu'est-ce que tu as à dire sur Mbemba? Je t'ai vu plusieurs fois être pas tout à fait d'accord avec nous.
Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a plusieurs trucs en fait. C'est que mettre Victor dans des considérations DH20, pour moi, c'est non. Je le dis direct, pour moi c'est non. C'est-à-dire que si on n'a pas mis, je vais prendre un exemple tout simple, même si je pense que le joueur est quand même meilleur, je pense que Victor est quand même meilleur que joueur en l'état, mais si l'an dernier on n'a pas mis Jaren Jackson Jr. dans un DH20, on ne met pas Victor Wembanyama cette année, même si individuellement sur la capacité à se créer son propre tir, la capacité, c'est un bien meilleur joueur offensif que ne l'était Jaren Jackson Jr. l'an dernier, qui était plus un shooter par exemple en bout de chaîne que Victor, qui va aller prendre des pull-ups, etc. Et pour moi, plus le bilan, même si on sait que voilà, le bilan, c'est pas toujours ce qu'on prend en compte. Vous regardez le DH20 de l'an dernier, il n'y a pas un joueur qui n'a pas fait les playoffs l'an dernier. Si, il y a Damien Lillard dans le DH20, qui n'avait pas fait les playoffs, c'est le seul sinon. Et Damien Lillard qui sortait d'une saison où il était quasiment dans le top 5 du MVP. Mais après, concernant Victor, je trouve que voilà, on va pas se mentir, on en avait parlé, j'en avais un tout petit peu parlé quand on avait fait l'épisode sur les Pistons au moment où ils étaient à leur 33e défaite consécutive et sur les Spurs au moment où ils étaient sur leur 13e ou 14e défaite de suite. Ça aide d'avoir Trey Jones en titulaire quand tu enlèves Jeremy Sohan en meneur et que tu remets Trey Jones titulaire. Ce qu'ont fait les Spurs depuis le passage à l'année 2024, en gros, c'est le moment où ils se sont dit « Ah, faut peut-être quand même qu'on fasse les choses bien », où Victor s'est remis à briller, plus... Ça, faut quand même le mentionner, les restrictions de minutes qu'il a eu pendant tout le mois de janvier. Ce qui est... Et en fait, c'est quelque chose où il a eu moins à se fatiguer. On l'a vu sur les quelques matchs juste avant le break où il est reparti au niveau de la trentaine de minutes au lieu d'être aux alentours des 24-25. Tu sens que c'est un peu plus dur de traîner la carcasse sur 30 minutes que de la traîner sur 25. Ce qui n'enlève en rien les performances de Victor qui sont sensationnelles. Je sais pas s'il prend moins de 3 points parce que en gros, depuis ces restrictions de minutes, un tir sur trois de Victor est un tir à trois points. La différence, c'est qu'il les met, puisqu'il est à 36% depuis la restriction de minutes. C'est surtout, oui, il y a des séquences de domination. Je dis ça en rigolant, mais le triple-double face aux Raptors, c'est juste parce que le dernier, c'est une reprise de drip, parce que Grady Dick fait un airball sur son tir. Donc, il n'aurait pas dû être comptabilisé. Mais ça, c'est mon petit côté tatillon, on va dire. Mais non, mais il fait des performances exceptionnelles. On n'en parle pas trop parce que voilà, il y a les flashs au dribble, il y a des grosses actions en compte, mais il y a quand même un petit peu de playmaking. Alors il y a beaucoup de déchets hein, en termes de turnover, c'est-à-dire que son ratio assist-turnover, il perd plus de ballons que ce qu'il ne réalise de passes décisives. Donc ça, c'est un truc qui va naturellement se corriger au fur et à mesure des années. Hein. On n'allait pas demander non plus à Victor, avec tout ce qu'il est capable de faire, d'être en plus de ça propre au niveau des pertes de balles. Il y a une dissuasion terrible près du cercle, c'est-à-dire que vous prenez les on-off au niveau de la fréquence de tir adverse près du cercle, c'est-à-dire combien le pourcentage de tirs tentés par l'adversaire près du cercle quand Victor est sur le parquet et le pourcentage de tirs tentés par l'équipe adverse près du cercle quand Victor n'est pas sur le parquet. C'est en gros, vous prenez ce différentiel-là, il est 96e percentile de les 96e centile de la ligue, c'est-à-dire qu'il est déjà parmi les plus grands les plus grandes forces de dissuasion de toute la NBA. Alors après, en termes d'efficacité, on n'est pas encore tout à fait, en termes de pourcentage de réussite adverse près du cercle, on n'est pas encore tout à fait dans Rudy Gobert, on n'est pas encore tout à fait dans Anthony Davis, dans ce joueur-là. Mais en termes de dissuasion, par contre, il est déjà dans ce registre-là. Il y a peu de joueurs qui viennent le tester et c'est de plus en plus évident au fur et à mesure de la saison, quand bien même il joue de moins en moins avec Zach Collins. C'est-à-dire que les mecs ont de plus en plus peur de driver sur Victor Wembanyama, quand bien même c'est quasiment le seul intérieur sur le parquet. Donc oui, offensivement, il y a énormément de bonnes choses. Le tir commence un petit peu à marcher. Puis voilà, j'ai quelques réserves entre guillemets sur le fait que effectivement ses coéquipiers ne sont pas du calibre d'un Chet Holmgren, mais est-ce que ça entre guillemets le fait d'avoir je sais pas combien il me semble qu'il a 35% d'usage. Enfin, il a un usage de superstar déjà. Est-ce que ça l'aide pas quand même à se mettre un petit peu en valeur? Il est exceptionnel, hein, attention, mais il a quand même énormément de ballons. Je suis pas d'accord, par exemple, avec ceux qui disent que il pourrait être mieux optimisé sur certaines séquences, mais je trouve qu'il est déjà à un usage de superstar. Et en fait, c'est un truc, il a 30% d'usage. Il est dans le 97e centile de la ligue. 30% d'usage, c'est All NBA, hein, pour vous dire. Jokic est à 31, Giannis est à 33. Donc, c'est juste sur le fait que je peux lire certaines fois en disant oui, il pourrait plus le servir. Il a déjà un usage de superstar. Je pense qu'il pourrait être mieux optimisé que plus mieux servir.
Oui, c'est...
Bah, tu l'as. Tu...
Vas-y.
Vas-y, vas-y.
Non, vas-y, vas-y, vas-y.
Non, mais justement, c'est la qualité et les conditions dans lesquelles il est servi qui pourrait être amélioré, mais on peut pas lui donner plus de ballons. Enfin, ce serait indécent de l'utiliser plus. Donc oui, c'est ça. C'est les conditions dans lesquelles il reçoit le ballon qui doivent être optimisées. J'ajoute la remarque parce que tu l'as mentionné, il ne joue plus avec notre ami Collins et ça aussi le fait de l'avoir repositionné au poste de pivot, ben, mine de rien, je pense que ça n'a pas rien à voir avec son amélioration. Ça fait un peu plus d'espace, c'est plus simple pour lui et je pense que ça l'aide énormément. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que en début de saison, il faisait des stats, mais on ne sentait pas l'impact sur une amélioration de la qualité du jeu des Spurs. Maintenant, on le sent, c'est-à-dire que quand il est sur les terrains, les Spurs sont une équipe plutôt OK. Et par contre, quand il sort, on voit une différence. Et ça, je ne l'avais pas forcément avant. Ou qu'il soit là ou pas là, il faisait ses stats, mais je ne sentais pas l'impact dans l'amélioration de l'équipe. Et là, par contre, je sens qu'effectivement, et ça se voit dans les stats, quand il n'est plus là, c'était moins bien. Et ça, c'est une amélioration aussi de ce début d'année 2024 où on a une version des Spurs meilleure quand il est sur le parquet, alors qu'avant, ça ne se voyait pas forcément.
Oui, vous avez quasiment tout dit sur Victor. Je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je pense que sur l'amélioration justement des Spurs, quand il est sur le parquet, c'est peut-être pas mal lié à ce qu'a dit Constant sur la dissuasion qui a vachement augmenté ces derniers temps et qui il est beaucoup plus dissuasif et les gens hésitent beaucoup plus justement à y aller. Donc ça ajoute de la qualité justement pour les Spurs lorsqu'il est sur le terrain. Son repositionnement poste de pivot, je l'avais noté également, ça lui a fait du bien à lui, ça a fait du bien aux Spurs. Et bien sûr, évidemment, le fait de mettre Trent Jones en meneur. Mais moi, je disais plus que pour être encore une fois d'accord avec vous, c'est plus la qualité de ce qui l'entoure que la façon dont il est mis en avant. Évidemment, il est extrêmement mis en avant, mais la qualité, je pense que on est avec Victor comme on l'est avec Chet, mais qui tombe tout de suite dans un bon environnement, ce qui donc est positif pour lui. On est avec Victor sur quelqu'un qu'il faut vite entourer de manière intelligente parce que il n'y a pas de temps à perdre. C'est déjà un très bon joueur de la NBA. Et quand je disais discussion DH20, c'était plus dans la discussion. C'était pas pour le mettre tout de suite DH20, Constant. C'était dans les 25-30. Il n'y a aucune honte à mettre dans les 25-30 qui sont dans la discussion Victor Wembanyama aujourd'hui. C'était plus ça.
Ah oui, bien sûr. Mais si on prend les critères de toute façon du DH20, les critères, on va dire, on a quelques critères communs. En tout cas, on a des atouts qu'on privilégie, enfin, qu'on met tous un peu en avant chez Doug Kebdo, à savoir la capacité de protéger le cercle et d'être un moteur offensif en attaque. Donc oui, il est dans la discussion. Ben a le même raisonnement que toi pour les écouteurs de Doug Kebdo. Je dis pas, attention, qu'il est 75. Je dis juste que quand je fais mon DH20, ma shortlist, elle s'arrête à 25. Elle dépassera, 30 les grandes années. Mais elle dépasse rarement 30-35, là où il serait peut-être. Mais je suis pas surpris, par exemple, pour conclure sur Victor, en tout cas moi de mon côté sur Victor, hormis si vous avez d'autres trucs à dire, je suis pas surpris que quand on fera le DH20 2025, il y sera. Je mets même une piécette sur le fait que DH20 2025, il sera dedans.
Surtout qu'il va vite arrêter de jouer et qu'on va vite un peu oublier Victor, je pense. Donc ça risque de jouer, effectivement. On va passer à la suite parce qu'on a déjà beaucoup parlé sur le top 3 et il est temps d'évoquer un petit peu le reste de la cuvée. Ce top 3, justement, il me fait faire une transition à travers une réflexion que je me suis faite. On est sur trois joueurs bons défense sur notre top 3, deux exceptionnels en défense et le troisième qui est un bon joueur en défense. Et on est sur une cuvée où il y a de la qualité en défense. C'est assez rare pour le souligner parce qu'en tant que rookie, c'est plus difficile justement d'être tout de suite impactant défensivement plutôt que d'être impactant offensivement et de se faire voir comme ça. On est sur une cuvée qui est plutôt pas mal, avec pas mal de joueurs intéressants. Est-ce que justement, je vais vous laisser un petit peu plus la main libre, est-ce que chacun, vous avez quelqu'un à citer dans la suite avant d'évoquer vos chouchous dans la suite, qui serait à citer parmi les bons joueurs défensivement. Madiane, pour commencer.
Je vais parler d'une évidence. En plus, c'est pas mal, c'est français. Bilal Koulibaly. Pourquoi ? Parce que moi, ce qui m'a... J'ai été grandement déçu par les guards formés en France. On a quand même eu pas mal, et du coup, les deux se sont fait couper récemment, Franny Kina et Killian Hayes. Donc voilà, j'avais cette crainte de me dire, est-ce qu'on n'est pas en train encore de nous vendre un rookie qui va être OK défensivement, mais qui va être inexistant le reste du temps. Et non, Bilal Koulibaly, défensivement, c'est ce qu'on attendait. C'est pas mal d'activité. C'est même visuellement très impressionnant, et peut-être plus impressionnant visuellement qu'efficace, mais ça reste quand même très, très sérieux. Et sur un poste de guard, en plus, c'est rare. C'est quelque chose qu'on sait faire visiblement chez nous, parce que je pense à Franck, qui aussi défensivement c'est pas là où il m'a déçu. Donc oui, si je devais citer avoir un guard dans cette cuvée là bon défensivement, c'est pas si commun. Et justement, moi je trouve que c'est plutôt le profil de la draft et le profil des joueurs qu'on a qui font que ils sont bons défensivement. Je pense pas que ce soit une tendance, c'est juste que typiquement Chet, Wemby, de base, de toute façon défensivement, c'est des forces de dissuasion. Et derrière, pareil, Miller, c'est grand, c'est costaud, forcément. Enfin, ça allait se retranscrire. Donc voilà, lui, c'est un guard, donc c'est plutôt inattendu, et je trouve ça très positif.
Ouais, guard forward. Hein.
Oui.
Plus proche de l'ailier que du guard.
C'est quand même un ailier.
Ouais.
Mais en fait,
ouais.
Il défend.
Oui, mais
il est sur
les extérieurs.
C'est ça. C'est ce qu'il défend, en fait.
Il défend les extérieurs.
Et une polyvalence défensive, mais on va dire que c'est plus un corps d'un ailier, même si finalement la taille n'est pas non plus. Enfin, c'est pas Brandon Miller au niveau de la taille. Il lui rend quand même quelques centimètres.
Ah non, c'est moins de 2 mètres. Il est à
1,98 d'après si j'étais. Donc, et d'après la police, il est à 2,3. Hein, donc, on ne sait jamais. Hein.
Je l'ai pas vu en vrai, je peux pas te dire.
Voilà, mais en plus les mesures en NBA, on sait que il y en a, ils sont mesurés certaines années sans les chaussures, d'autres avec les chaussures. KD n'a jamais été un 7-footer, hein, donc voilà. À partir de là, on peut remettre en doute le système de mesuration. Non, après, défensivement, je suis obligé. Ça prêche pour ma paroisse, mais en même temps, c'était une de ses qualités lorsqu'il a été drafté, Monsieur Kyson Wallace, parce que Madiane, tu parlais justement du fait que c'était on avait des profils d'intérieur avec Chet, même si c'est la draft 2022, mais avec Wemby, avec des profils un peu plus déliés, quand on mentionnera les jumeaux Thompson dans quelques instants. Mais Kyson Wallace, c'est un guard. C'est un guard en plus qui n'est pas très grand. Hein. Il fait, 1,90.
1,90, ouais.
Ouais, 1,90. Ce qui finalement, pour un meneur NBA, il y a 5-15 ans, aurait été relativement grand. Ça l'aurait mis dans la tranche haute, on va dire, des meneurs. Là, ça le met plutôt dans la tranche basse quand tu fais 1,90, en tout cas au niveau des guards. Donc voilà, je trouve que c'est, il apporte quelque chose du côté d'OKC. Alors, il passe un peu sous les radars, on va dire, de ceux qui ne regardent pas tous les matchs d'OKC, parce que statistiquement, il n'y a pas un impact colossal. C'est juste un des meilleurs, par contre, tireurs à 3 points dans le corner. Donc ça, c'est son côté un petit peu PJ Tucker. Mais défensivement, on est sur quelqu'un de très intéressant qui est capable de rentrer dans le 5 majeur lorsqu'il y a des absents du côté d'OKC. Les rares fois où il y a des absents du côté d'OKC, il y a vraiment des choses très intéressantes. Un peu parfois, quelques rookie mistakes, notamment sur la gestion des fautes, sur les faits de mordre à certaines feintes des attaquants, là où il peut encore progresser. Mais je trouve que off-ball, notamment sur les interceptions, il y a une vraie activité. Et on-ball, il y a des choses très intéressantes, même si voilà, il n'est pas non plus... c'est pas un défenseur d'élite, en tout cas pour l'instant. Je trouve que voilà, c'est un bon défenseur collectif qui individuellement montre de belles choses pour un joueur de première année. Donc voilà, c'est pas non plus, on n'est pas sûr. J'ai vu les comparaisons d'Eric White. Voilà, c'est le joueur qu'on aimerait qu'il devienne. Mmh. Un peu ce profil-là, je dis pas All-Star, hein, mais un peu plug and play, joueur qui peut un peu tout faire défensivement, offensivement. Mais c'est très intéressant en tout cas ce qu'il montre pour l'instant du côté de Kyson.
Et c'est pratique pour OKC. C'est mine de rien, il y a un fit. T'avais pas besoin d'avoir un fort guard, t'avais besoin de ça.
c'est-à-dire un mec qui est capable de faire toutes les petites choses un peu utiles défensivement, qui a un shoot décent et qui peut bosser off-ball. Et franchement, ça, par contre, niveau adaptation à l'équipe, tu pouvais pas rêver mieux, clairement.
Oui, même au niveau de la mentalité, comme ça, ça pourra peut-être parler, faire transition potentiellement sur d'autres rookies. Mais je trouve que ce qui est bien avec certains rookies de cette année, on va dire, c'est que ils ont un mindset que je trouve très positif. On a parlé par exemple de Brandon Miller, qui, je trouve, j'en ai parlé dans l'épisode sur la trade deadline, est peut-être le seul qui essaye d'influer quelque chose du côté de Hornets, et Kason Wallace. Tu pourrais te dire, je suis drafté 10e. Ça pourrait être un peu frustrant, on va dire, pas de faire les poubelles, mais de pas être un ball dominant et d'avoir très peu de situations pour se développer. Bah non, il accepte son rôle, il l'accepte pleinement, et je trouve que pour juger aussi de la réussite d'un rookie, il faut bien prendre en considération la mentalité du rookie. Et je trouve que on a pas mal de rookies qui acceptent et qui ont très facilement accepté leur rôle cette année.
Ouais, je vais revenir un petit peu sur les deux joueurs que vous avez cités rapidement. Kason, oui, comme tu l'as dit, Constant, c'est un peu plus sous les radars. Et pourtant, finalement, c'est un joueur qui joue énormément. Il joue moins de minutes que certains, mais c'est un joueur qui est là tous les soirs, finalement, et qui fait le job d'un vétéran, j'ai envie de dire. C'est presque ça qui est le plus impressionnant avec Kason. Pour ce qui est de Bilal, le truc positif que tu n'as peut-être pas dit, Madiane, c'est qu'il est moins négatif en attaque que ce qu'on pouvait attendre aussi. Dans une, ouais, équipe de Washington qui fait très peur, c'est vraiment le côté positif, c'est-à-dire qu'on voit le défenseur de talent et qui n'hésite pas à prendre en plus les match-ups difficiles quand Doncic est en ville, c'est Bilal qui est sur lui. Et à côté, offensivement, ça laisse entrevoir, si la progression continue, un joueur qui sera peut-être positif en attaque aussi, et du coup, un bon avenir pour lui également.
C'est ce qui faisait peur, finalement, quand on le voyait arriver, c'est qu'on ne doutait pas de ses capacités défensives, mais c'est pour ça que le comparatif avec Franck me paraissait pertinent. C'est que, justement, ce qui fait qu'il va pouvoir avoir sa place, être développé, etc. en NBA, ce n'est pas sa capacité défensive, c'est juste qu'il faut que, positivement, il soit utile à l'équipe, et ça a l'air d'être le cas, donc... Donc, on espère qu'il pourra se développer.
Et voilà, ça nous offre une Ouais. Non, j'ai gâché la transition, excusez-moi. Non, mais rapidement sur ça, c'est que moi, la crainte que j'avais vis-à-vis de Bilal Koulibaly, c'était que ce soit un Isaac Okoro bis. C'est-à-dire que si vous regardiez Bilal du côté des Mets, il avait à peu près la même utilisation que Isaac Okoro sur demi-terrain. C'était ça qui était inquiétant. Et il rentre un peu plus du côté de... Il est un peu plus présent dans le jeu collectif des Wizards, et même c'est un joueur qui a pas peur au niveau de la mentalité. Voilà, c'est pas Ousmane Dieng, c'est un joueur qui prend ses responsabilités, qui a pas peur timide. De prendre ses shoots. Non, pas timide, et c'est bien d'être égoïste dans la NBA, même si c'est pas forcément ce à quoi tu es formé. C'est bien d'être égoïste en NBA, et les Wizards, potentiellement là, avec le bon développement de Deni Avdija, ils peuvent avoir une paire d'ailier avec Koulibaly, Deni Avdija, qui peut être intéressante, en tout cas qui peut être une satisfaction de leur saison qui est quand même passante.
Oui, tu m'as pas gâché la transition, puisque tu as évoqué Isaac Okoro, et ça me permet de parler tout de suite de quelqu'un dont on a un peu plus peur que ça devienne Isaac Okoro, même si, ok, Okoro est un joueur NBA intéressant tout de même et tout. Néanmoins, Ozar Thompson, pour le citer justement, est peut-être l'un des plus impressionnants en défense, si on enlève les deux monstres qui sont tout en haut, mais on a quand même peur de son utilisation en attaque, qui pour l'instant est, disons-le, très compliqué, voire catastrophique,
anecdotique,
voilà, et qui pose problème, c'est-à-dire que tu attaques à 4 quand tu as Ozar sur le terrain, et même si ça venait à s'améliorer, on imagine que ça aurait du mal à dépasser finalement un peu un Isaac Okoro qui peut sanctionner à 3 points quand besoin. Pour l'instant, ce n'est pas le cas de Zar, mais qui pourrait le faire, mais qui, à partir du moment où il n'est pas respecté, posera tout de même toujours des problèmes. Donc, on espère peut-être que ça sera mieux, mais défensivement, on est sur un joueur extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez à dire sur Zar?
Oui, on est sur très polyvalent. Vas-y. La longueur, hein. La longueur, ça aide bien. Et puis surtout, le moteur, c'est-à-dire que défensivement, il a un moteur quand même qui est assez exceptionnel. Donc voilà, on en avait parlé en début de saison. On en avait parlé, il me semble, quand on avait fait le podcast sur les Pistons. Après, voilà, je trouve que défensivement, il est très bon, mais c'est ce que j'avais, évoqué déjà quand on avait évoqué le Causar, c'est que offensivement, c'est tellement frustre que pour moi, tout aussi bon défensivement qu'il peut être, si offensivement ça reste à ce niveau, on tiendra toujours plus du joueur gadget que du vrai joueur NBA. J'aime bien citer Jared Vanderbilt en joueur gadget, je trouve. Parce que Isaac Okoro, en attaque, c'est un joueur qui cette année, me semble, est à 38-39% à 3 points. C'est-à-dire que oui, c'est un shooter de bout de chaîne. Bien sûr, c'est un shooter qui prend 100% de ses tirs à 3 points ouverts, mais c'est au moins un shooter qui est capable de sanctionner. Alors que Ozar, c'est même pas. Enfin, on part de beaucoup plus loin que ce qui est parti Isaac Okoro offensivement. Donc, je trouve que j'ai mes réserves. Il faut voir un petit peu comment il est utilisé en attaque. La Détroit l'utilise un peu, vu qu'ils ont un peu plus de spacing, il utilise un peu plus en tant que poseur d'écran. Il fait des pick and roll parfois avec Jaden Ivey et Ozar Thompson. C'est un truc notamment qu'il faut faire ou profiter des capacités athlétiques dingues d'Ozar Thompson pour justement être capable de punir sur du pick and roll comme si c'était un intérieur finalement, puisqu'il y a de la taille, puisqu'il y a de la longueur, puisqu'il y a des capacités athlétiques. C'est juste que voilà, défensivement, le profil est très très bon, mais il y a certaines limitations aussi sur le handle qui moi m'inquiète un petit peu, qui était une des craintes aussi que je pouvais avoir au moment de sa draft comparé à son frère jumeau. Donc doute sur le handle, doute sur le tir font que même si tu utilises comme un intérieur entre guillemets, à savoir très peu de capacité, enfin très peu de responsabilité, balle en main, poseur d'écran, capacité à cut, je me dis que est-ce que ce sera vraiment suffisant pour en faire un joueur NBA valuable en attaque malgré une défense qui va être très bonne. J'attends vraiment de voir sur les semaines à venir, voire même l'année à venir du côté de Détroit.
Du coup, moi, je comprends les intérêts de Ozar Thompson, et effectivement, défensivement, et le potentiel. Mais en fait, je pense qu'il faut pas s'illusionner sur le fait qu'il part de beaucoup plus loin que Isaac Okoro. Isaac Okoro, cette année, il shoot à 39,3% à 3 points. Mais même en saison rookie, il shootait à 29% avec 3,2 tentatives. Que des tirs ouverts, certes, mais il y avait quand même une base. Il y avait quelque chose. On le critiquait déjà, mais il y avait un début de quelque chose. Ozar Thompson, 1,6 tentatives par match. Donc, c'est pas trop peu de tentatives pour avoir un effet statistique, mais c'est quand même 15,5%. On part de la stratosphère. On ne sait créer pas un shoot à entre 21 ans et 25 ans. La progression sur le shoot, si t'as pas déjà une base, quelque chose, un petit frémissement de base, ça aura jamais lieu. Donc, moi, je comprends qu'il y ait du potentiel, etc. Mais moi, je pense qu'il part de trop loin pour devenir un jour à peu près utile offensivement en NBA. Je pense que ça restera un boulet à jamais s'il reste en NBA, mais ça part de tellement loin. Pas de handle. Enfin, il fera des petits points, il fera des petites choses utiles, oui, mais ça va rester un boulet en attaque et je pense pas. Okoro, ce serait, je pense, le summum qu'il pourrait atteindre, alors que déjà Okoro, on trouve que c'est limité. Donc
le meilleur scénario.
Le meilleur scénario, c'est Okoro, mais même là, j'y crois pas.
Constant tout à l'heure a parlé de joueur gadget en citant Vanderbilt et en comparant avec Ozar. J'irai plus loin en disant que joueur anachronique, parce que finalement ces mecs, ils sont draftés dans les années 90. Je pense qu'ils ont une très belle carrière parce que on avait un peu plus l'habitude de pas toujours attaquer à 5 en NBA et que les spécialistes défensifs qui étaient très mauvais en attaque avaient des carrières. Il suffisait de progresser un petit peu au fur et à mesure et d'être un peu utile, comme l'était un Anthony Mason, par exemple, à son époque, pour pouvoir rentrer et devenir un grand joueur NBA. Effectivement, il y a des inquiétudes, même si ce qu'on a vu en défense, qu'on a vu aussi au rebond, le travail au rebond de Ozar Thompson est très impressionnant. Donc, s'il y a une petite chance que le joueur devienne Isaac Okoro en attaque, ce sera un joueur plus intéressant qu'Isaac Okoro. C'est ça qu'il faut le dire aussi. C'est-à-dire qu'il a peut-être encore plus il t'apporte plus en défense que ce qu'apporte déjà Isaac Okoro, avec plus de longueur en plus et plus de un potentiel physique plus important. Donc, laissons sa chance à Ozar et je vais vous lancer justement sur son jumeau, Amen, puisqu'on parle d'Ozar. Qu'est-ce que vous pensez d'Amen, pour qui la saison est plus compliquée, mais qui peut s'expliquer aussi? Constant, qu'est-ce que tu penses de Damien que tu aimais beaucoup au moment de la draft, si je me rappelle?
Ouais, disons que j'aimais bien. Je préférais le profil que celui de son frère jumeau, par exemple. Même si c'était un profil qui était plus brut, il y avait quand même plus de qualité dans le futur, je trouvais, pour Amen que pour Rosa. Après, la saison, elle est en deux parties, on va dire, pour Amen. C'est-à-dire qu'il se blesse très tôt. Il loupe, il me semble, ses 3 semaines de compétition, voire même 1 mois et demi. Non, c'est 1 mois et demi, hein, parce qu'il doit jouer les 2 premières semaines de régulière et tu revois pas avant fin décembre. Donc c'est 1 mois et demi de compétition. Blessure à la cheville, il me semble. Et ensuite, bah, c'est tout le problème de Houston. C'est-à-dire que Houston est une équipe très moyenne qui commence à devenir une équipe médiocre avec un coach qui nous fait sa plus belle imitation de Larry Brown, de Tom Thibodeau aux grandes années des Bulls. C'est-à-dire que, bah ouais, quand ton bac court, il prend 38-40 minutes. Enfin, quand ton bac court titulaire prend 38-40 minutes par match tous les soirs, c'est difficile de voir les jeunes se développer, hein. Donc, Ime Udoka, admet certaines de ses erreurs, notamment quand on parlera d'un autre rookie des Rockets où il commence à lui donner pas mal de temps de jeu. Mais là, on va dire que Amen profite de la blessure de Fred VanVleet pour être titulaire. Donc, il est titulaire sur les 5 derniers matchs où il joue 30 minutes de moyenne. Bah, on voit les qualités de Amen Thompson. Il y a des qualités de playmaking. Là aussi, il y a des qualités défensives sur la capacité à créer des turnovers pour l'équipe adverse, notamment via les interceptions, notamment via quelques contres aussi. Donc voilà, c'est intéressant. Et c'est pas forcément ce dont a besoin Houston. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est-à-dire que défensivement, offensivement, mais la manière dont il est défendu par les équipes adverses, bah effectivement, il y a de la rim pressure, il y a de la capacité à agresser le cercle, mais là aussi, il y a une absence totale de tir qui était même... Quand on regardait un petit peu d'Overtime Elite, il partait de plus loin au niveau du tir extérieur que son frère jumeau. Donc voilà, c'est un truc qui m'inquiète un petit peu, mais il y a quand même beaucoup plus de responsabilité balle en main, il y a quand même beaucoup plus de capacité de création que je trouve plus intéressant malgré une activité défensive et une capacité défensive moins forte que son frère jumeau. Il sera moins élite, je pense, de ce côté-là du terrain, mais il sera moins négatif en attaque parce que plus de responsabilité, meilleur handle et des lectures que je trouve plus intéressantes que son frère.
On va essayer d'avancer un peu plus vite parce que on passe beaucoup de temps sur chaque rookie pour essayer de les évoquer tous. Vu qu'on est sur les Rockets et que tu viens un peu de l'évoquer, on va parler de Cam Whitmore. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est plus récent justement, comme tu l'as dit, Udoka a fait son mea culpa entre guillemets en lui donnant plus de minutes et on voit à quel point il y a un potentiel quand même très très fort, notamment en attaque là pour le coup, Cam Whitmore.
Un trou noir, hein. Trou noir complet. Hein. Trou noir complet. Est-ce que non mais attendez. Cam Whitmore, il a joué 476 minutes cette saison. Il a fait 13 passes décisives. 13 passes décisives. En 500 minutes.
Ah oui, je l'avais pas vu.
C'est un trou noir complet. Par contre en attaque, oui, bah en attaque, il y a des choses intéressantes. Il profite aussi de la blessure de Tarizon puisque Tarizon, il a un peu le syndrome Brandon Ingram de l'an dernier. Pour ceux qui savent pas, Brandon Ingram était blessé à l'orteil, il avait loupé 2 mois et demi. Hein. Pour un problème à l'orteil, bah, Tarizon, ça fait 2 mois et demi qu'il n'est pas là non plus. Donc, Udoka a donné des minutes à Cam Whitmore et il les lui rend bien. Par contre, machine de scoring, hein, effectivement. Faut pas lui demander grand-chose. Hein. C'est-à-dire que défensivement, pas très bon. Playmaking, c'est pas très bon. Par contre, il prend la balle et il te met la balle dans le panier de manière assez efficace en plus.
Efficace, pour un joueur. Ouais. C'est ça qui est...
Mmh. Oui, parce que c'est pas non plus... voilà, on n'est pas sur ce type de rookie très trou noir qui en plus n'est pas efficace. Il y a de l'efficacité près du cercle, il y a du volume à 3 points, ce qui est un truc qui manque un petit peu aux Rockets notamment et qui leur permet de leur débloquer quelques trucs en attaque, même si leur attaque reste pas folichonne. Donc voilà, il reste à voir comment ça va se développer. On savait qu'il avait chuté pour des raisons autres que basketballistiques, on va dire, ou autres que purement basketballistiques, notamment lors des workouts, etc., etc. Donc
un peu médical aussi.
Mais on verra comment ça va se passer dans le futur. Mais c'est surtout des échos qu'on a pu avoir de certains insiders. On va dire que les workouts ne sont pas toujours très bien passés. Mais voilà, ils profitent du côté de ces Rockets. Et les Rockets continuent de drafter des joueurs que certaines franchises, on va dire, pourraient être récalcitrantes de drafter. On sait que Tarizon, il y a eu quelques problèmes du côté de LSU l'an dernier. Il y a de ça 2 ans, juste avant sa draft. En même temps, fallait voir le bordel, excusez-moi l'expression, mais le bordel qui était LSU l'année de Tarizon. Donc voilà, Cam Whitmore se développe bien. On va voir si on est sur un joueur qui va développer autre chose que des capacités de scoring et de trous noirs. Mais c'est quand même un vrai rayon de soleil du côté des Rockets. C'est un joueur qui a un apport très intéressant pour un joueur que tu draftais. C'est un peu un pic à la Michael Porter Jr., par exemple. En plus, c'est bien parce que les deux sont des trous noirs.
Je pensais à ça aussi.
Les deux sont des trous noirs en attaque, en plus. C'est que tu les prends beaucoup plus bas que ce que le consensus global les avait pris, en te disant c'est un gamble complet, ça ne coûte rien de le sélectionner, et finalement, tu te retrouves avec une bonne plus-value. Alors, est-ce qu'il deviendra du niveau de Michael Porter Jr.? Je lui souhaite, mais en tout cas, les prémices sont très intéressantes.
C'est intéressant, et je pense que, juste pour conclure rapidement, je sais qu'il faut qu'on aborde d'autres rookies, mais au moins, sa place en NBA, je pense qu'en sortie de banc, il y aura toujours moyen de lui trouver une bonne place. Et ça au moins, c'est sûr, c'est un joueur NBA et il trouvera sa place en rotation en sortie de banc à minima.
On est d'accord tous sur c'est un profil assez simple finalement à définir, ce Cam Whitmore. Et j'ai pensé à la même chose que toi, Michael Porter Jr. tout de suite. Il y a ce côté-là en tout cas qui revient forcément. Et du coup, c'est un joueur qui va plaire à Madiane, puisque on connaît l'appétence qu'a Madiane pour MPG.
C'est la beauté du shoot, moi, Michael Porter Jr. Hein.
Oui. C'est un peu différent.
C'est très différent.
On va avancer vite, et avant de l'oublier quand même, on va citer un joueur qui est un peu plus dans la lutte pour cette troisième place, qui l'a été en tout cas, et dont on a beaucoup parlé en tout début de saison. On va parler de Jaime Jaquez, du Miami Heat, un joueur un peu bon à tout faire. On a vu faire des très bonnes choses en début de saison. Là, le shoot rentre un peu moins, donc on en parle un peu moins justement un peu à cause de ça. Fallait s'y attendre à un moment donné, hein, parce que c'est un rookie, ça débute. En tout cas, on a vu beaucoup de bonnes choses. Est-ce que Madiane, ça fait longtemps, tu as parlé un petit peu sur Cam Whitmore, mais tu n'as pas beaucoup parlé depuis un petit moment sur Jaquez?
Non, bah, du coup, c'est toujours plus discret dans les équipes qui essayent de gagner les matchs. Pourquoi ? Parce qu'au vu du volume de minutes qu'il joue, bah, forcément, les responsabilités sont bien moindres. Donc, ce qui est bien, c'est que ça ne le fait pas baisser en efficacité. Le truc qui est un peu gênant, mais qui, ben, forcément, il y a une bonne base, mais il faudra qu'il fasse mieux, c'est peut-être au niveau de son shoot à 3 points, où je pensais que ce serait plus simple pour lui de transitionner, surtout dans un collectif tel que celui du Heat, et c'est un peu plus décevant. Mais par contre, effectivement, il arrive à trouver sa place, et je pense que c'est plus simple pour ce type de profil de s'intégrer dans une équipe comme le Heat. Je pense qu'il aurait été peut-être moins bien dans des contextes, on va imaginer par exemple celui des Spurs. Je pense que ça aurait pas été fait pour lui, et je trouve qu'il y a aussi un bon fit avec la franchise en termes de responsabilité. Donc non, mais bonne pioche. Et puis surtout, ben, comme c'est le Heat, on sait qu'ils nous en feront un zombie d'ici quelques temps.
La chute d'adresse, c'est quand même terrible. La chute d'adresse, ouais, est terrible.
Ces derniers temps, c'est ça qui est dur.
C'est-à-dire depuis qu'on a fait la FAQ de Noël, il est quand même à 23% à 3 points sur 3 tentatives. Hein. Ça fait 2 mois, hein, la FAQ de Noël. Hein. Ça commence à piquer un peu. Alors, il a loupé quelques matchs fin janvier. Mais je trouve qu'il est moins impactant, en fait. On en avait parlé, il me semble. Quand on avait fait la FAQ de Noël, on disait le tir à 3 points, ça va pas tenir, mais c'est un joueur quand même qui a suffisamment de qualité pour survivre à une baisse d'efficacité. Il est quand même beaucoup moins valuable quand il est à 23% à 3 points que quand il est à 39. Je trouve que c'est un joueur qui a quand même 31 minutes. Il y a peu de rookies, en fait, qui jouent plus que lui en termes de minutes. Il y a peut-être Brandon Miller. Sinon, Chet joue moins, Victor joue moins. En fait, c'est quasiment, faudrait regarder exactement. Mais non, parce que Chet a joué tous les matchs, mais en termes de minutes jouées, c'est peut-être, il doit être sûrement dans le top 5 des rookies qui ont joué le plus de minutes cette saison. Et je trouve qu'il y a un manque d'impact du côté du Heat ces derniers temps qui se fait ressentir. Aussi parce que il y a le retour des blessés, donc forcément il faut un peu plus partager la gonfle. Il y a quelques bonnes performances quand même, on va pas non plus être médisant en disant que ça fait 2 mois qu'il fait rien, mais la baisse d'efficacité, en tout cas la baisse d'efficacité à 3 points, le rend un peu moins brillant, et le fait d'avoir le retour des blessés, notamment le retour de Jimmy Butler, tout le monde qui revient un petit peu du côté du Heat pour avoir enfin un groupe au complet, fait que il est beaucoup moins impliqué, je trouve, dans le jeu offensif du Heat et dans le jeu collectif.
Mais c'est surtout depuis son absence, enfin, il avait déjà mal démarré et ça allait déjà moins bien, mais en plus depuis la petite absence qu'il a eu fin janvier, c'est là où je me suis posé la question de est-ce que physiquement il est vraiment up parce que autant ça commence à chuter, il fait sa petite absence, mais depuis son absence, c'est même pire parce que je sais plus quel pourcentage t'as défini, mais là sur les depuis son retour d'absence, ouais, c'est famélique son efficacité derrière la ligne.
Après, l'idée avec Rakesh, je pense, c'est que même si effectivement, quand il shoote moins bien, il devient beaucoup moins intéressant, forcément, ça ne va pas continuer à shooter aussi mal, j'imagine, vu le premier échantillon qu'on a vu. Et du coup, le côté plug and play, un peu capable de tout bien faire, hein, intelligent en défense, connecteur, capable de un peu tout bien faire. Lui, je pense qu'on peut, sans trop peu de prendre de risques, dire qu'il a sa place en NBA pour assez longtemps.
Oui, c'est un ennemi en 18, hein, c'est pas non plus. C'est déjà très bien.
Même quand il est peu d'adroit, c'est un joueur qui commet quand même peu d'erreurs. C'est-à-dire qu'un tir manqué, c'est pas une erreur pour moi.
C'est ça. On est d'accord. Pour avancer vite, pour parler de nos chouchous, je vais vous citer un petit peu les autres joueurs qu'on n'a pas encore cités, si vous voulez en parler rapidement. On voulait parler de JJ Jackson, hein, un petit peu le seul vainqueur de la période catastrophique à Memphis, même si
c'est
aussi Vince Williams. Oui, tout à fait. Jordan Hawkins, que certains aimeraient voir plus du côté de New Orleans. Tracy Jackson Davis, révélation du côté de Golden State. Et tout Manny Camara, pour en revenir encore à un spécialiste défensif. Est-ce que vous voulez parler de quelqu'un en particulier parmi ces quatre-là?
Non, bah après, il y a encore. C'est incroyable que les Warriors aient pu drafter Tracy Jackson Davis 55, il me semble. Ou alors, il n'est même pas drafté. Oh, je ne sais plus. Mais en tout cas, il est drafté beaucoup plus bas que son apport réel sur le parquet. Alors après, c'est. On va dire qu'il est moins... Non, 57, c'est ça. 57 picks de la draft 2023, c'est l'avant-dernier pick. Il joue moins ces derniers temps du côté de Golden State, aussi parce que voilà, il y a le retour de suspension de Draymond. Ils ont changé un petit peu... Enfin, Steve Kerr a un peu changé les 5 majeurs. Donc, il se retrouve un petit peu délaissé, on va dire, au niveau de la rotation. Mais c'était intéressant. Après, voilà, j'ai pas grand-chose à dire, hormis le fait que effectivement Jordan Hawkins... C'est quand même un joueur intéressant à mettre quand tu as Zion Williamson sur le parquet en même temps que toi. Et JJ Jackson, qui a un peu la belle histoire, parce que voilà, je vais pas faire dans le storytelling, je suis pas The Great Review, mais c'est un joueur qui est de décembre 2004. Et de décembre 2004, c'est un joueur extrêmement jeune. C'était le joueur le plus, enfin, c'est toujours le joueur le plus jeune de NBA qui a fait une saison qui était vraiment pas facile du côté de sa fac. J'ai oublié le nom de sa fac. Excusez-moi, mais où beaucoup lui conseillaient de faire
South Carolina,
où beaucoup lui conseillaient de faire une année supplémentaire. Et finalement, il a décidé de faire le grand saut. Memphis, en plus, qui draft pas souvent des joueurs très bruts comme ça au second tour. Vous regardez l'historique de draft de Memphis et du David Roddy, c'est des joueurs plutôt vieux, justement, qui ont fait leur classe en NCAA, et là, ils partent sur ce profil-là. Bah, ça tombe bien, c'est la saison où Memphis ne joue absolument rien avec l'infirmerie. Donc, il peut se développer et il le signe à 4 ans sur un contrat très team-friendly. Donc, encore une fois, Memphis qui, malgré les absences, malgré les blessures, eh ben, a quand même du positif à tirer cette saison avec Vince Williams et Jimmy Jackson, qui finalement compensent très bien le départ de Dylan Brooks, j'ai envie de dire, et qui pèsent moins dans la masse salariale.
Madiane, tu as quelque chose à dire un petit peu sur les joueurs qu'on a cités?
Non, mais sur JJ Jackson, en fait, ça me fait beaucoup penser à ce que peut faire Memphis là, et je pense que ça leur servira à ce qu'ont pu faire les Warriors une année où effectivement il y avait personne, pas de Curry, pas de Clay, et en fait, enfin pareil, Draymond qui a très peu joué, et du coup, ben ils s'en ont profité pour développer des petits joueurs comme ça. Voilà, mais qui ont servi derrière, et ça c'est super intéressant pour pas cette saison de Memphis, c'est que du coup pour la saison prochaine, c'est typiquement le genre de profil que tu vas retrouver dans les rotations moins responsabilisées, mais comme t'as pu les utiliser, t'as pu les former, t'as pu les développer, et ben ça te servira quand ton infirmerie sera moins vide qu'actuellement. Ce sera pas compliqué à faire de toute façon de faire moins vide côté Memphis l'an prochain.
Oui, et puis JJ Jackson en termes de trou noir aussi, hein, on est pareil, hein, parce que 447 minutes, 18 passes décisives. Hein. Mais après, voilà, c'est un profil hyper polyvalent, c'est-à-dire que tu peux le mettre l'an prochain en scoreur explosif, un peu pyromane en sortie de banc du côté de Memphis, surtout qu'ils auront un personnel, hormis si l'effectif bouge vraiment l'été prochain, plutôt défensif sur le banc, on va dire. Et quand on voit que Zaire Williams ne répond pas forcément aux attentes qu'il pouvait y avoir, bah, tu te dis qu'il peut avoir le rôle qui était un peu promis, on va dire, à Zaire Williams au moment de sa draft.
Voilà, on a fait un gros tour d'horizon. Si vous avez deviné qu'on n'a pas ce joueur dans nos chouchous, vous auriez remarqué qu'on n'a pas parlé du numéro 3 de la dernière draft qui s'appelle Scoot Anderson. Mm. Les gars, saison compliquée, mais il faut en parler. Il faut parler de Scoot Anderson. Il faut aussi parler de choses pour lesquelles ce n'est pas de sa faute si c'est compliqué, mais il faut parler de certaines choses pour lesquelles c'est un peu difficile. Je vous laisse parler, je parlerai après. Ouais. Constant ou Madiane, allez-y, comme vous voulez.
Non, mais sur Scoot, je me souviens du moment de la draft où effectivement Miller devant Scoot avait fait débat lors de la draft. Je demande à tout le monde du coup de rediscuter ce point parce que au vu de la shitstorm qu'il y a pu avoir parfois chez certains, voilà, il faut pas s'emballer, on peut pas savoir avant d'avoir commencé en NBA. Je pense que déjà il est handicapé par des problèmes physiques aussi et que ça l'aide pas, mais aussi le contexte est un contexte où là où au début on s'était dit tiens peut-être que il va rester Damian Lillard à côté et du coup il pourra faire 5 minutes tranquillement face au banc, il a beaucoup trop de responsabilités pour commencer. Il passe dans le grand bain avec en plus une formation dont on peut rediscuter avec du coup la G League Ignite. Enfin, j'ai presque de la peine pour lui parce que je pense que il a beaucoup de confiance. Je pense pas qu'il ait perdu ses qualités, mais qu'en fait il arrive pas à s'adapter et qu'en plus le contexte de Portland fait qu'on lui donne vraiment beaucoup trop à porter d'entrée de jeu et du coup il arrive pas à s'y faire.
Je serais un peu plus cassant. Non, justement l'inverse, je serais un peu plus
positif.
Je lui donnerais un peu plus de circonstances atténuantes sur Scoot.
Ah, je suis soft, je le trouve.
Oui, non, mais c'est-à-dire que en fait, moi, je faisais partie de ceux pour qui il n'y avait pas de débat. Scoot devait être choisi devant Brandon Miller. Je continue de penser ça parce que je pense que malgré le fait que Brandon Miller fasse une meilleure saison rookie, je continue de croire que le plafond de Scoot Anderson est largement supérieur au plafond de Brandon Miller. Après, voilà, ça se confirme pas. Il est beaucoup plus brut que ce que je pensais qu'il allait être, par exemple. Ça, c'est un truc sur lequel je me suis trompé. Il est beaucoup plus brut. Cependant, je mettrais deux, trois circonstances atténuantes. Déjà, c'est que son efficacité, même si elle est toujours pas bonne, elle augmente au fur et à mesure de la saison. C'est-à-dire que, voilà, il est toujours au niveau de l'EFG. Écoutez le précédent épisode pour que je vous explique l'EFG. Ceux qui savent pas, je vais pas le répéter à chaque fois. Mais au niveau de l'EFG, voilà, il est toujours à 5 ou 6% de moins que la moyenne de son poste, mais c'est quand même en augmentation sur la majeure partie de la saison. La courbe, elle fait ça à peu près. Donc voilà, ça grimpe. Il y a eu des blessures en début de saison. Le contexte collectif de Portland n'est quand même pas terrible. Il faut être honnête, c'est-à-dire que Portland, c'est l'une des plus mauvaises attaques de NBA. Tout le monde joue un petit peu pour sa tronche, hein, sans vouloir manquer de respect à Portland, mais Jeremy Grant fait des bonnes perfs, mais ça joue un peu pour lui. Anthony Simon joue un peu pour lui. Il y a des blessures avec le cas Malcolm Brogdon. Shaedon Sharpe, qui va être absent quasiment d'ici la fin de saison, qui est un vrai rayon de soleil sur la saison de Portland. Et voilà, on pourra parler potentiellement de l'Ignite et du fait que ça a été un échec relativement colossal, puisqu'il y a quasiment rien de bon qui est sorti de l'Ignite finalement. Quand vous regardez les Jalen Green, quand vous regardez les Scoot Anderson, en tout cas, aucun joueur qui, en choisissant l'Ignite, n'a augmenté sa valeur au niveau de la draft. Ils ont quasiment tous baissé. Jonathan Kuminga, Jaden Hardy, voilà. Plus cette année, le fait que ce soit l'une des pires équipes de G League depuis 20 ans, c'est très difficile.
Peut-être que Dyson Daniels qui a augmenté sa valeur un petit peu en Ignite.
Ouais, et encore, parce que le profil est radicalement différent. On est plus sur un profil défensif. Mais voilà, il y avait des Isaiah Todd qui sont des profils qui étaient passés du côté de l'Ignite, etc. Donc, il y aurait tout un truc à dire sur l'Ignite qui n'est pas le propos. Mais je trouve que Scoot Anderson, tout est encore possible pour lui. C'est-à-dire que il est à la croisée des chemins entre Russell Westbrook et Dennis Smith Jr. C'est-à-dire que c'est très difficile. On sous-estime quand même le fait que c'est très difficile pour des profils comme celui de Scoot Anderson, qui sont des profils très athlétiques, très bruts, d'être efficaces sur une première saison à 26% d'usage. C'est très rare, en fait, les guards qui sont efficaces avec ce profil-là. avec autant de volume et avec autant de qualité athlétique, qui jouent autant sur leur capacité physique d'être aussi bon et d'être aussi efficace en première année. Donc, je lui laisserai un peu de temps. Il y a des choses qu'il va devoir corriger. Mais le tir, même si les pourcentages sont pas là, je trouve que c'est en augmentation et qu'il a pas peur de les prendre. Donc, je jetterai pas tout à la poubelle sur la saison rookie de ce coup.
Non, et sur la qualité de tir, très rapidement, moi, je dis toujours l'un des indices forts sur la qualité de tir. Moi, je regarde toujours qu'est-ce qui se passe au lancer franc. Et là où au début c'était plus compliqué, là quand même sur 2024 il est à 80% sur la ligne et ça va être très important parce que comme il est physique, il va réussir, je pense quand même à terme à pouvoir tirer de plus en plus de fautes. S'il maintient 80% et même sur les 10 derniers matchs, il est même au-delà, il est pas loin de 90. Enfin en tout cas la qualité de tir. Le matériel brut du tir est là, donc ça demande finalement qu'à éclore, mais va falloir bosser.
Puis il y a quelque chose qui se prend aussi, et on pourrait revenir encore sur la Ignite. La Ignite était censée apporter quelque chose de supérieur au niveau justement physique par rapport à la NCAA, avec des vétérans qui défendent et tout. Et finalement, ce qu'on peut observer, c'est que l'accès à la raquette de Scoot Anderson est beaucoup plus difficile en NBA et qu'il s'entête un peu là-dedans parce qu'il pense être prêt et qu'il va falloir du temps pour, malgré son profil physique très impressionnant, il va falloir du temps pour que ça soit de plus en plus efficace et avec des meilleurs choix, forcément.
À 74 sur 161 au cercle, il a 46%. C'est-à-dire que c'est aussi un truc qu'il partage avec son compagnon de Lignite, Jalen Green, c'est que tu as des profils athlétiques, uber athlétiques, mais qui n'arrive pas à résister au contact ou à finir près du sol. Et ça, c'est un truc qui m'inquiète un petit peu et qu'il va falloir surveiller.
Tout à fait. Et maintenant, on va pouvoir passer justement à vos chouchous. Si vous avez suivi un peu tout l'épisode, je pense qu'on a cité tellement tout le monde que vous devez vous douter des trois qui restent, je pense. Donc, Madiane, dis-nous en premier ton chouchou de cette cuvée.
Bon, moi, du coup, c'est monsieur Brandon Podziemski, venant de Santa Clara. Un petit coucou à Alan au passage. J'espère que tu seras content que je le prenne. Pourquoi ? Parce que au-delà du joueur, hein, parce que on en a entendu parler. Du coup, c'est l'un des rares rookies de cette année, au-delà de Victor, que je regardais en amont de la draft, parce que au vu de là où il était. Et quand j'ai vu que le pick était 19 et Warrior, je me suis dit, ah les enfoirés. C'est le fit parfait en termes de franchise à mes yeux. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur extrêmement intelligent. Il sait shooter. Il est tout le temps en mouvement. Bon sens de la passe. Et en fait, je regardais un peu ce qu'on disait de lui. Et il y a une phrase qui m'a marqué dans un article. C'est le Draymond Green de son poste. Et j'aime bien cette capacité à faire tous les petits trucs un peu intelligents, un peu utiles dans l'équipe. En plus, on voit que dans l'actualité, les Warriors sentent qu'ils ont quelque chose de bien parce qu'ils ont commencé à bencher Monsieur Klay Thompson. Et ils commencent à se dire qu'effectivement, ils tiennent quelqu'un qui leur servira et moi j'adore tous les trucs et ses moves aussi, c'est-à-dire les spins quand il arrive dans la peinture, moi j'adore. Sur les rebonds, ça c'est quand même une particularité au vu de sa taille, c'est pas un joueur extrêmement athlétique, mais sur les rebonds, c'est par son intelligence qu'il réussit à faire des belles choses. Il a quand même une détente OK, mais du coup, c'est surtout par son placement et même sur les passes, des fois il a des très bons angles de passe où c'est des choses qu'il réussit à voir sur le terrain qui sont quand même de la vision de jeu très avancée surtout pour un rookie. Donc on m'en avait dit beaucoup de bien. C'est pour moi je m'en doutais, mais c'est confirmé, c'est un excellent joueur de basket.
Très bien, j'aime beaucoup aussi. Constant, qu'est-ce que tu as à dire sur
on va pas non plus faire 2000 ans, mais on est à Santa Clara, ils forment des bons joueurs de basket. Hein. Ça, c'est Jalen Williams, c'est pas pareil, parce qu'on est sur un potentiel All-Star, enfin voilà, c'est pas Pods, c'est des bons fondamentaux de basket. des bons joueurs de fondamentaux. Et Pods, il fait, là aussi, il fait très peu d'erreurs. C'est un joueur extrêmement plug and play. Donc voilà, c'est un, il va pas non plus. C'est pas celui qui a le plafond le plus élevé. Par contre, en termes de fondamentaux et de joueurs que tu peux insérer à peu près avec n'importe qui dans un 5 majeur, il marche très bien. Donc voilà, j'avais parlé de trou noir pour Cam Whitmore, j'avais parlé de trou noir pour Didi Jackson. Là, on est sur un joueur qui a des vraies bonnes lectures. Et ça, c'est ça que je trouve intéressant, plus la capacité de tir.
On va enchaîner tout de suite avec ton chouchou, Constant.
Ouais, bah, c'est mon chouchou. Mon chouchou, c'est Seattle Graham. Hein,
t'en as plein.
Ouais, et puis il y en a plein que j'aime bien. J'aime bien Jordan Hawkins. Enfin, ouais, moi, j'aime bien les rookies. En attendant, Rich Shepard, si vous ne connaissez pas auditeur de Dunk Hebdo, je vous invite à regarder Rich Shepard. Vous verrez le ce que c'est l'an prochain, je pense. Non, mais je voulais parler de Keontae George parce que lui, pour le coup, au moment de sa draft, Monsieur Allen Guillou de Santa Clara, on avait un peu parlé, on avait un peu discuté en off avant la draft où je disais, moi, j'étais pas très chaud. Les profils comme ça de guard qui sont pas forcément très bons au playmaking, qui sont pas forcément très efficaces sur leur saison NCAA. Il me semble que c'est un prospect issu de Baylor, tout à fait. Donc, j'étais un peu sceptique. Il avait fait une bonne Summer League, enfin, un bon match de Summer League ou deux bons matchs de Summer League avant de se faire la cheville. Et finalement, du côté de Utah, il est bien rentré dans le collectif. Alors, il défend pas. Bon, ça, c'est un truc qu'on peut... On a parlé de bons défenseurs là tout au long de l'épisode. Lui, pour le coup, on est vraiment sur ce guard qui, défensivement, ne défend pas, qui fait assez peu d'efforts, qui est assez peu concentré off-ball. En même temps, j'ai envie de dire, comme la quasi-intégralité du Jazz, hormis Chris Dunn, hein, parce que... Et Walker Kessler dans un registre très différent. Mais le Jazz, que ce soit l'an dernier ou cette année, ça défend pas des masses. Et je trouve que même s'il n'y a pas l'efficacité, même si au niveau du playmaking... Il n'y a pas non plus beaucoup de flash, on va dire. C'est un passeur, pour moi, assez classique qui n'a pas des lectures dingues, mais je le trouve plus propre que ce que j'aurais imaginé. Au niveau du tir, il y a quelques flashs. Il n'y a pas non plus une efficacité délirante, mais il y a du volume à 3 points. Il y a quand même quelques séquences où il ne va pas hésiter à agresser le cercle. Il arrive à provoquer 2-3 lancers si on prend son ratio de tir et de lancers francs tentés. Donc, il y a plein de bonnes choses du côté de Keontae George. Plein de choses qui demandent à se développer et qui peuvent se débloquer sur la seconde partie de saison, étant donné que le Jazz, encore une fois, a décidé un petit peu de balancer, on va dire, la seconde partie de saison, en tout cas le dernier tiers de la saison après la trade deadline, parce que leurs 4 matchs post-trade deadline en termes d'investissement notamment défensif sont vraiment pas terribles. Donc, il va avoir pas mal de temps de jeu sur la seconde partie de saison. Il va peut-être passer titulaire, ce qu'il était sur les 3 derniers matchs avec le départ de Fontecchio. Donc, je suis pas surpris si on voit quelques cartons offensifs de Keontae George sur le dernier tiers de la saison. Et je trouve qu'on est sur un joueur quand même qui sent bon, le bon guard de NBA. Un profil très intéressant, scoreur, un petit peu de playmaking, dans la veine de ce qu'on peut avoir. La comparaison va paraître bizarre quand on voit ce que le joueur est devenu. Mais pour moi, ça peut être un profil à la Jordan Poole. C'est-à-dire, mais pas Jordan Poole de cette année. Hein.
Je vois ce que tu veux dire.
Jordan Poole, il y a de ça, l'an dernier, c'est-à-dire un guard alentours des 20 points de moyenne avec un petit peu de playmaking, du tir extérieur et la capacité à aller chercher quand même des lancers.
Okay. Keontae George, l'avantage un peu qu'il a, pour le mettre en parallèle justement avec un autre guard dont tu as parlé, ce que tu connais bien, c'est Kayson, c'est Keontae George, il se voit plus.
Oui.
On a tendance à le voir un peu plus et pas pour rien, parce que c'est aussi des choses positives, mais disons qu'il est plus flashy. Mm. Madiane, t'en penses quoi, toi, de Keontae?
Je pense qu'il est quand même aussi bien tombé à Utah parce que, mine de rien, il y a de la qualité autour de lui, donc ça permet aussi de limiter ses éventuels déchets, parce que, mine de rien, je pense que c'est typiquement le joueur où si tu le laisses trop facilement, dans des contextes plus difficiles, il peut vite partir en cacahuète au niveau des choix, et c'est, je pense, là où il va pouvoir s'améliorer au niveau de ses pourcentages. Ça va être au niveau de ses choix, de qu'est-ce qu'il peut prendre comme tir et qu'est-ce qu'il peut se permettre de faire. Je trouve que c'est là-dedans où il pêche le plus. Mais après, oui, niveau développement, on a un joueur NBA, on a, je pense, quelque chose de qui pourra se développer à Utah. On verra la fin de saison à la loupe, parce que là, je pense que c'est le moment où il va être plus responsabilisé. Et c'est là où je pense que j'ai une réserve, c'est justement dans ce contexte-là où on le responsabilise plus. Si Utah décide un peu de entre guillemets balancer la saison, moi ce qui me fait peur, c'est que déjà que les choix étaient parfois douteux, avec plus de responsabilités, la fatigue, le fait de jouer plus souvent contre des titulaires, est-ce qu'on n'a pas un risque qui se grille quand on donne un costume trop gros à un joueur? Justement, on parlait de Jordan Poole, quand on donne un costume trop grand à ses joueurs, et ça, c'est un peu ma crainte sur Keyonte George.
Très bien, très bien. On va passer à mon chouchou. Alors moi, je vais faire un petit mea culpa, justement. C'est pas un mea culpa envers le joueur, mais en pré-saison, lorsqu'on a appris que Jason Kidd, donc le coach des Dallas Mavericks, allait mettre Derek Lively comme titulaire au poste de pivot, j'étais très inquiet. Déjà parce que je n'ai pas confiance en Jason Kidd, mais aussi parce que un pivot rookie titulaire qui n'est pas une superstar comme les Chet, ou enfin superstar des rookies, on va dire, comme les Chet ou Wemby, ça m'inquiétait beaucoup. Et justement, j'ai envie de mettre du crédit sur ce qu'a apporté jusqu'à maintenant Derek Lively, c'est-à-dire qu'en saison de rookie, être déjà un titulaire, un pivot titulaire à NBA. Et ça s'est vu justement lorsqu'il a été absent aussi, que Dallas tournait moins bien, que effectivement, quand t'es pivot, c'est toujours mieux d'avoir Luka Doncic en meneur de jeu et que ça t'aide vraiment beaucoup. Néanmoins, on a vu un Derek Lively qui s'est imposé cette saison comme un pivot titulaire NBA, et pour un rookie, c'est vraiment, moi je trouve, impressionnant, tant on voit des pivots de qualité qui mettent parfois beaucoup de temps à s'affirmer et à devenir des joueurs de NBA. Donc là, on est sur un joueur qui est intéressant en attaque parce que Luka Doncic, et que ça marche très très bien entre les deux, et que c'est ce dont a besoin Doncic, mais aussi un bon joueur défensivement, un bon protecteur de cercle, plutôt bon au rebond. Donc moi voilà, j'en profite un peu pour faire un mea culpa, mais on parle d'un vrai bon joueur de cette QV, et dans tous ces dans une QV où QV de rookie, pas de draft, mais dans une QV où tu as déjà deux pivots extraordinaires, c'est difficile de sortir son épingle du jeu, et pourtant Derek Lively l'a fait. Donc je sais pas ce que vous en pensez du joueur.
Oui, il est un peu dans cette veine. Il y a, si on prend la draft 2022 par exemple, il est un peu dans la veine Jalen Duren, Mark Williams, de ces profils de joueurs très athlétiques qui finalement arrivent plutôt bien à s'intégrer en NBA dès leur début. Alors à des degrés moins, hein, parce que Jalen Duren a beaucoup plus une palette offensive plus large que Derek Lively. En même temps, c'est pas très difficile d'avoir une palette offensive plus large que Derek Lively, même s'il y a deux trois bouts de tir à 1 ou 2 mètres, à 1 mètre du panier, on va dire. Il y a 2-3 moves qui peuvent être intéressants, des espèces de petits hooks ou pas de hooks, mais des push shots. En tout cas, c'est pas que des dunks. Mais il est important, voire même essentiel dans ce collectif de Dallas, parce que si vous prenez les ratings avec lui et Luka Doncic, lorsque les deux sont sur le parquet en même temps, le net rating des Mavs est de 8.69. C'est un très bon net rating. Lorsque Derek Lively est sur le banc et que Luka Doncic est sur le parquet, sur les matchs qu'a joué Derek Lively, hein, parce que sinon ça compte pas, le net rating des Mavs est de -8.57. C'est quasiment l'inverse. Vous mettez un petit moins devant avec une défense qui s'écroule. Donc on va voir comment ça va se passer avec les trades qui ont été faits à deadline, avec Daniel Gafford, ouais, avec PJ Washington. Je pense que Derek Lively restera malgré tout le titulaire, mais peut-être qu'il aura moins de responsabilités. Mais effectivement, j'étais comme toi. Il me semble qu'on avait fait l'épisode prévu ensemble, Amine, lorsqu'on avait parlé des Mavs. J'étais plutôt sceptique sur Derek Lively, et finalement, il montre de bonnes choses défensivement. Il est loin de prendre l'eau, et en attaque, bon, voilà, il a Luka Doncic, mais je trouve qu'il arrive quand même à, malgré le fait qu'il y ait Luka Doncic, il arrive d'une part à imposer ses capacités athlétiques sur certains pivots, même si voilà, c'est un prospect qui a beaucoup plus de capacités athlétiques qu'un Chet par exemple, donc c'est beaucoup plus simple de faire parler son physique. Il arrive quand même à le faire, et je trouve que c'est un joueur quand même intelligent, qui est pas juste un baobab qui attrape les lobes envoyés par Luka. C'est un bon poseur d'écran, et même au niveau de sa verticalité, voilà, un joueur comme Chet Holmgren, par exemple, a beau faire 2m16, c'est pas toujours le mieux placé pour recevoir les lobes. Là où Derek Lively, je trouve que sa science du placement pour recevoir les lobes et pour être dans le dunk spot est quelque chose auquel je m'attendais pas forcément à ce niveau-là.
Et en plus, je trouve que justement, comme il a beaucoup d'attributs physiques à faire valoir, on aurait pu s'attendre, par exemple, à ce qu'il ait beaucoup plus de problèmes de faute que ce qu'il a là.
Oui.
Et ça c'est pour moi, ça, c'est un excellent signe défensivement. C'est que je m'attendais à ce que ce soit une catastrophe. C'est loin d'être le cas. Alors oui, il fait des fautes, ce qui est logique parce que il a plus besoin de s'imposer. C'est pas un alien. Enfin, c'est un alien physique, évidemment, mais c'est pas le même genre d'alien physique que les deux autres. Et du coup, non, là-dessus, il est propre et défensivement, c'est ça qui lui donnera une carrière parce que finalement, tu le mettras avec un guard fort. On voit bien qu'il arrivera à donner le minimum requis pour un pivot. Et par contre, défensivement, là, ça, c'est des très bons indicateurs et c'était assez inattendu finalement dans cette QV.
Ouais, t'as raison de noter le côté faute justement, parce qu'on en a vu avant, hein, aujourd'hui des joueurs qui sont de très bons pivots NBA. Je pense à Mitchell Robinson sur sa première saison par exemple, sur
Okongwu,
Jaren Jackson. Les premières saisons sont difficiles à cause des fautes, hein, ils sont tout de suite limités en minutes à cause de ça. Donc là, on est sur un joueur qui est déjà assez intelligent pour ne pas trop en faire et tout. Donc ça, c'est très positif. Bon, on est sur un joueur qui sera probablement pas une superstar, mais néanmoins. Un pivot titulaire NBA, c'est déjà très très bien et ça semble déjà l'être. Donc vraiment, vraiment bravo à lui. Du coup, on va pas tarder à terminer. Et moi, j'avais deux petites questions comme ça pour vous juste avant de terminer. C'est des petites questions. C'est évidemment des questions auxquelles on répond, mais on va forcément avoir tort. C'est un peu du prono. D'après vous, déjà, combien de All-Star va-t-il y avoir dans cette QV ? Là, il y a de la marge.
C'est dur, hein. Merde, All-Star, c'est dur d'être All-Star. Hein. On le voit hein, cette année. Hein.
C'est... Combien de sûrs ?
Il y en a un.
Oh, sûr. Il y en a un.
Seul. Un seul de sûr. J'ai tendance à dire deux. J'ai tendance à dire deux.
Allez, deux. En fait, il y en a un, je mets ma maison dessus.
Oui.
Non, mais il y en a un, il le sera l'an prochain probablement. Donc, hormis blessure. Hein. Mais le deuxième, il peut l'être. Mais c'est-à-dire que. Il y a de la concurrence quand même, parce que du coup les All-Stars, il y a plus les centers, hein, c'est les forwards. Hein. Donc il sera en concurrence avec des ailiers et des ailiers forts. Il sera en concurrence aussi avec un autre de ses coéquipiers. Donc je parle de Chet Holmgren.
Il est à la conférence.
Il est dans la conférence Ouest. C'est-à-dire que non, pour moi il y en a. Allez, je pense que Chet Holmgren sera All-Star un jour quand même malgré tout. Saison rookie, t'es en 16 points, 7 rebonds, plus de la défense élite. Je pense qu'il le sera au moins une fois si OKC venait à être dans les hauteurs de la conférence Ouest. Après, voilà, c'est très difficile d'être All-Star dans la conf Ouest. Peut-être que voilà, avec potentiellement des mouvements qui pourraient y avoir, peut-être avec des retraites, la retraite de Kevin Durant, la retraite de LeBron James, qui sont pas des trucs qui vont arriver, mais qui arriveront d'ici, allez, 3 ans. Bah, peut-être que Chet Holmgren sera All-Star. Je pense que Brandon Miller a une tête d'All-Star.
Aussi, je suis d'accord.
Oui.
Pour moi, il y a une tête d'All-Star. Sur la QV de rookie, pour moi, il y en a trois qui peuvent être All-Star. Enfin, trois qui seront All-Star.
Et moi, j'ai envie de dire, je suis d'accord avec ce côté trois. Et point d'interrogation, Scoot. Parce que Scoot, si ça devient le joueur qui doit devenir, ça doit être un All-Star aussi.
Ouais, mais pour moi, 3 sûrs plus 1, on attend de voir quand même.
J'ai plus les données. Je me souviens qu'on avait fait un épisode avec Ben qui avait sorti la classe de draft moyenne. Mais 3, il me semble que c'est dans la moyenne des classes de draft. J'ai pas réussi à retrouver le chiffre en live.
Je me permets de réagir sur ce point. Salut à tous, c'est le Ben du montage, celui du futur. Effectivement, on avait enregistré un épisode sur... Qu'est-ce qu'une bonne draft à l'été 2020 avec Adrien, Alan et moi-même? Si je me permets de m'incruster dans le podcast, c'est qu'effectivement, c'est selon moi un des meilleurs épisodes qu'on ait jamais fait. Donc je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller l'écouter. À cette époque, on avait trouvé, d'après les statistiques, qu'une bonne draft, une bonne classe de draft, c'était un voire deux futurs Hall of Famer, 6 joueurs ayant une carrière proche du niveau All-Star et une vingtaine de joueurs ayant une carrière NBA. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description. C'est vraiment un bon épisode, d'après moi, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Et puis je vous laisse avec Amine Constant et Madiane.
Mais je pense qu'il y a un potentiel. Je trouve que la QV est bonne et je pense qu'elle a surtout produit beaucoup de joueurs NBA. Qui vont rester longtemps. Ça c'est une bonne cuvée de draft pour ça. Et après, dans les pics, je pense, oui, on pourra en avoir 4 maximum. Je serais surpris qu'on dépasse 4, en tout cas.
Oui, je suis assez d'accord avec toi.
Meilleur des cas, il y en a 4. Au-delà, ce serait surprenant vu de ce qu'on se dit et de ce qu'on voit.
Et on a beaucoup parlé aussi du côté beaucoup de bons joueurs défensivement. Donc, la question subsidiaire, vous la voyez venir.
À combien de 10 points
combien de... All defense, non, combien de all defense? Déjà,
un, deux.
Je peux vous répondre, il y en a deux, pour moi, il y en a deux sur SRT.
Il y en a déjà deux.
Il y en a peut-être un qui va l'être cette année. Hein. Ah, peut-être un qui va l'être cette année avec Chetelgrim, ou en tout cas, enfin, moi, je suis, vous me dites Chetelgrim est dans le top 5 du Defensive Player of the Year, moi, je trouve pas ça déconnant du tout, hein.
Non, ça l'est pas.
Après, All Defensive.
Qui ont une mention, on pourrait en avoir 8, hein.
8.
Qui ont des mentions, qui ont des votes, tu veux dire.
Ouais, non, mais qui finissent par en avoir une dans leur carrière, tu vois, parce que aussi, il y a quand même, par exemple,
après, déjà, faut qu'ils aient une carrière, certains, en attaque, aux Art Thompson. Aux Art Thompson, on a tendance à dire que ça peut être en LNBA. Mais faut qu'il soit toujours en NBA, quoi.
Exactement. C'est ça qui fait peur. Moi, je pense que le plafond, c'est 8. Mais si tu devais être sûr et parier la maison, t'en mets 2 et 2 de base où t'es sûr de toi. Oui, et après, à partir de là, tu te dis qu'il y en a 2-3 qui vont peut-être essayer à gratter. Donc, allez, j'en mets 5. Je me dis, s'il y en a 5, c'est pas surprenant parce qu'il y en a 2 où on est déjà sûr de nous et après le reste, ça dépendra des contextes et s'ils sont toujours là.
Après, Ozar, il peut l'avoir à la Matisse Thybulle, hein. C'est-à-dire qu'en attaque, ça sert pas à grand-chose, mais par contre, il y a tellement d'activités en défense qu'il y a tellement de stocks, hein, on va pas se mentir. Hein. Ce qui aide bien Matisse Thybulle pour être all-defensive de l'année de suite, c'est la production statistique, que ce soit sur les interceptions, que ce soit sur les
comptes. Côté playmaker défensif.
Tout à fait. Non, pour moi, il y en a, allez, 4. Je pense que, bon, Victor Chet, c'est sur la cuvée de rookie, hein, pas sur la cuvée de draft. Hein. Chet, c'est acquis. Je pense que
facile.
Je pense que Bilal Koulibaly, dans sa carrière, aura du All Defensive. Et je pense que, en fonction de comment ça se passe du côté de OKC, peut-être que Kayson Wallace a un futur de All Defensive.
Wallace. Surtout au vu de son poste, c'est son poste qui, je pense, l'aidera à réussir à en avoir un parce que ce sera plus simple, effectivement, sur ces postes-là.
Je sais pas si c'est beaucoup plus simple que ça, ouais, parce qu'il y a de la concurrence sur les guards, hein, aussi.
Ouais. D'ailleurs,
ça commence, ouais.
La question se posera aussi pour Ayman autant que pour Ozar, hein, même s'il est moins impressionnant défensivement, le fait d'être sur ce poste de guard, mine de rien. S'il trouve sa place en NBA, lui aussi sera dans la discussion.
Oui, mais comme du côté des Rockets, il sacrifie le développement des jeunes pour Fred VanVleet et Dion Brooks, histoire de gagner 35 matchs. Bah écoute, on verra ce qu'ils feront cet été, hein. Mais bon, mais peut-être, tu vois, que c'est un joueur qui, enfin, offensivement, qui profitera de l'arrivée d'un Steven Adams aussi, par exemple.
Ouais. Oui, tout à fait. Bon, je crois qu'on a fait un point complet. On aurait pu parler de Duop Reith, on aurait pu parler de Ricky Council, hein, que je commence à voir du côté de Philadelphie, vu qu'on a 25 joueurs absents, nous aussi, maintenant.
Mais, mentionner les fantômes du premier tour. Amine, rapidement,
oui, c'est vrai.
Petite
c'est
mention
vrai,
pour les fantômes du premier tour. Alors, c'est le cimetière des éléphants, un petit peu, pour certains, malheureusement. on va commencer par celui qui joue le plus, c'est Anthony Black, qui a été titulaire sur certains matchs du Magic. Défensivement, là aussi, il y a de très grosses qualités. C'est juste qu'en attaque, c'est très compliqué. Mention pour Jarace Walker, qui a été transféré du côté d'Indiana le soir de la draft.
Tant attendu.
Moi, vraiment, j'étais heureux de voir les Pacers drafter Jarace Walker, qui finalement passe derrière Obi Toppin et Jalen Smith dans la rotation. Plus là, avec l'arrivée de Pascal Siakam, ça va être difficile. Les Pacers n'ont pas voulu le lâcher lors du trade de Siakam. Ça montre qu'ils comptent quand même un petit peu sur lui. Taylor Hendricks, drafté du côté du Jazz, qui lui commence à avoir quelques minutes avec le trade de Simon Efontekio et le départ de Kelly Olynyk au niveau des ailes, donc voir sur la seconde partie de saison.
Plus prévisible pour Taylor Hendricks pour le coup, parce qu'on voyait déjà ses ailes surchargées du côté du temps en début de saison.
Tout à fait. Jatt Howard, encore du côté du Magic, qui lui n'a quasiment pas de minutes.
Ça c'est
très difficile. Kobe Bufkin du côté d'Atlanta, qui est drafté 15e, qui a très peu de minutes aussi, alors que Atlanta, c'est pas une équipe qui joue les finales NBA, on va dire. Et puis mention quand même pour le fantôme des fantômes, mais c'est celui qui se voit le plus, c'est Grady Dick du côté des Raptors, que moi j'aimais beaucoup, et ça, on va dire que le début de saison de Grady Dick est très 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 difficile, que ce soit en G-League ou que ce soit sur les minutes qu'il a avec les Raptors. Ah, y avait du tir du côté de Kansas, et là, il n'y a plus trop de tir, il n'y a plus grand-chose. Donc, c'est des joueurs qui ont encore largement le temps de se rattraper. On va dire que leur début de carrière NBA ne débute pas sur les meilleurs auspices.
Eh ben, je pense qu'on a fait vraiment là le tour complet des rookies. T'as un dernier mot à dire, Madiane, peut-être?
Non, à part que, mine de rien, quand on cite les fantômes de la draft, alors il y a des circonstances différentes, mais il y en a pas énormément, finalement, quand on regarde au final. Alors, si on l'a redrafté, je pense qu'il y aurait pas mal de choses qui bougeraient, notamment des pics qui étaient tombés aux alentours des 15-20e places qui remonteraient pas mal. Après, sinon, globalement, il n'y a pas l'air d'y avoir eu des énormes accidents industriels. Et ça c'est plutôt bon signe.
Pour résumer un peu cette draft, même si on a beaucoup parlé de Chet qui n'est pas dans cette draft, donc qui est un peu associé. Néanmoins, il y a eu une énorme tête d'affiche. Et pourtant, quand il y a une énorme tête d'affiche, on a un peu peur pour la suite. Et là, cette fois-ci, la suite est quand même très sérieuse. Et on a une belle cuvée de draft, justement. Donc, plutôt positif. Je pense que ça sera vu quand même sur tout le long de l'épisode qu'on a été plutôt positif sur ces rookies. Moi, je vous dis merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire votre avis justement sur ces rookies, pourquoi pas en commentaire ou sur les avis sur Spotify. Mettez où vous voulez, nous on vous lit, il n'y a pas de souci. Sur Twitter, on vous répondra. Et nous, on revient très vite pour la suite du feuilleton NBA. Salut à tous.
Tchuss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.